Donc merci à vous, Gilles Leroy, de revenir nous voir, puisqu'on s'était déjà vu la première fois dans l'après-prix Goncourt, parce que Alabama Song, votre précédent livre, avait eu le prix Goncourt et ça avait été extraordinaire, un déferlement de louanges sur ce livre-là qui racontait l'histoire passionnée, passionnante et avec ce don dont on reparlera tout à l'heure qui est assez unique, d'aller vous mettre dans la tête et à la place de la pensée et de l'âme d'une femme qui était en l'occurrence Zelda Fitzgerald, la femme de Scott Fitzgerald. Voilà, donc ce soir vous nous présentez Zola Jackson aux éditions Mercure de France. Alors j'avais pensé avant même de pouvoir parler de Zola Jackson, nous sommes à la bibliothèque Zola, donc encore un signe, encore un, j'avais pensé de vous faire lire les premières lignes de votre livre pour nous montrer et nous faire écouter la vraie voix de Zola Jackson. Et après, on verra qui elle était.
Je précise que je ne suis pas du tout à l'aise pour lire mes propres textes, mais donc...
J'en lirai en alternance
avec vous. Et en plus, c'est la première fois là que je vais lire une ligne de... D'accord. Nouvelle-Orléans, Louisiane, août 94. J'aime ça. J'aime quand la cuisine est poudrée de cannelle, de colombo, de cumin, quand les épices envolues transforment ma maisonnette en bonbonnière. J'ai l'ouvre-boîte universelle pour les tomates pelées, les bananes en sirop, le maïs sans grain, le piment oiseau et le lait de coco. C'est un beau jour. Le bulletin météo a promis des heures de soleil et j'entends les voisins qui s'affairent autour du barbecue, comme je devrais m'y coller bientôt, j'imagine, s'il n'arrive à temps pour me sauver. J'ai horreur des grills. J'en ai une peur panique, car c'est un sport d'homme. Un privilège d'homme et de nanti.
Voilà, donc je voulais ces lignes-là pour faire écouter cette voix gaie, celle qui est la vraie Zola Jackson. On va après voir un petit peu qui elle était. Alors déjà, la première question que j'allais vous poser, c'est que bon, le prix Goncourt, ça a été un grand éblouissement, une grande surprise, un grand bonheur. On vous attendait tous, y compris la presse spécialisée, au coin de la plume, pour savoir ce qui allait venir après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a eu des angoisses? Est-ce qu'il y a eu du vertige avant Zola?
Le vertige, c'était l'agitation qui est née du prix. Mais en même temps, c'est un vertige, comment dire, très, très dynamique. C'est-à-dire que j'avais dit, dès que j'avais eu le prix, que je comptais bien en profiter. Et j'en ai profité, c'est-à-dire que j'ai essayé d'aller là où on m'invitait en France, puis beaucoup à l'étranger dans les deux années qui ont suivi. Et c'est vrai qu'à un moment, je commençais un peu quand même à trépigner d'impatience, à vouloir écrire, quoi, parce que c'est quand même pour ça que je suis fait, je crois. Et voilà, je commençais à m'ennuyer un petit peu sur les routes parce que j'arrivais pas à vraiment plonger dans le projet que j'avais, qui était donc de raconter cette histoire de Zola Jackson. Et puis j'ai pris beaucoup de notes, et puis à un moment donné en juin 2009, j'ai averti les gens de ma maison d'édition que j'arrêtais de tourner et que je m'enfermais pendant 4 mois, et j'ai écrit donc le livre, et voilà, il est né comme ça.
Alors vous nous revenez donc avec l'Amérique encore et une histoire d'une héroïne, à nouveau une femme que vous réussissez si bien. Donc cette héroïne magnifique et forte. Et alors le cadre, moi je vais situer le cadre et puis vous nous ferez un petit peu plus après. Donc le cadre, on est dans un quartier pauvre de la Nouvelle-Orléans en août 2005. Il y a l'ouragan Katrina qui est en train de ravager, de briser la Louisiane. Plus de 2000 morts, on verra après selon un peu le partage de ces morts-là. Et Zola Jackson, elle vit seule dans cette maison avec Lady, sa chienne, offerte par son fils, dans sa maison. Alors elle croit que c'est une maison insubmersible et indestructible, puisqu'elle a été construite par son mari qui est mort. Elle vit donc seule. Voilà. Alors, qui est Zola?
Ben, c'est en fait une institutrice à la retraite, qui a été un tout petit peu poussée à la retraite, parce que les directeurs de son école trouvaient qu'elle était, comment dire, non pas qu'elle perdait la tête, mais qu'elle avait un comportement un tout petit peu dérangeant pour les enfants et et surtout pour les parents des enfants. Donc, on l'a un peu forcée à la retraite. Elle continue de faire l'école du soir aux gamins du quartier, qui sont tous des gamins pauvres. Elle habite, je ne sais pas si on a dit que c'était une noire, une afro-américaine, et elle habite donc un des quartiers pauvres de la Nouvelle-Orléans, le quartier qui s'appelle Gentilly, comme la ville en banlieue parisienne. Et voilà, c'est un peu sa vie depuis. On le comprend assez vite au début du roman, sa vie si solitaire est due aussi au fait qu'elle a perdu son fils 10 ans plus tôt, ce fils qui s'appelle Caril, qui était promis à un brillant avenir, un historien qui avait écrit un livre, qui voilà, son livre traduit déjà dans plusieurs pays, et voilà, et sa vie à Zola s'interrompt donc 11 ans avant le début du roman, avec la mort de son fils, et l'on découvre peu à peu quel a été son destin à elle, le destin de son fils.
Alors justement, il y a une manière très particulière qui est la vôtre de raconter. Il y a une construction du récit qui se fait en alternant les pensées intimes de Zola avec des flashbacks, des scènes de déluge et de mort entremêlées. Et on a l'impression que c'est un peu comme pour rappeler la fragilité de l'existence, quelque part. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu nous faire passer ?
Ben oui, parce que c'est le dispositif du roman, c'est ça. C'est une femme seule dans une maison en bois. Enfin, à un moment, elle compare les maisons blanches de ces quartiers pauvres à des boîtes d'allumettes, quoi, des allumettes dans une... Bon, et parce qu'elle sent bien la fragilité de tout ça, et c'est vrai qu'elle est dans cette solitude qui est la sienne, et en plus assaillie par les éléments. D'abord la tempête, qui c'est vrai a soufflé pendant une quinzaine d'heures, et a déjà détruit beaucoup de choses dans la ville, puis l'inondation, qui n'est pas liée directement à la tempête, mais au fait que les digues du lac Pontchartrain cèdent et donc envahissent les quartiers pauvres de la Nouvelle-Orléans, qui sont, comme par hasard, les quartiers, bien sûr, les quartiers noirs essentiellement, et les quartiers blancs, eux, ayant été protégés parce que construits du bon côté du lac. Donc c'est vrai que c'est une femme seule qui se bat d'abord contre les éléments et puis avec sa mémoire, c'est-à-dire que l'ouragan, en l'occurrence, pour moi, c'est pas le sujet du livre, je le précise, c'est juste un élément, et c'est le déclencheur de mémoire. C'est-à-dire que c'est par l'ouragan que Zola se souvient, et que son récit commence, son monologue commence, parce que elle a vécu 40 ans plus tôt, jour pour jour, en août 65, un ouragan qui s'appelait Betsy, qui est passé effectivement sur la Nouvelle-Orléans, mais qui n'a pas été aussi meurtrier ni destructeur. Et il se trouve que Betsy correspond à la naissance de ce fils, son fils Caril, donc, et que donc il y a, à 40 ans d'intervalle, et il y a ce choc de mémoire qui est de voir revenir l'ouragan alors que Caril n'est plus là.
Alors on la voit comme ça être ballottée, elle aussi, comme avec les éléments, entre ses pensées, ses souvenirs heureux, entre son mari, Aaron, et son fils. Et toute cette eau qui monte, qui continue à monter comme ça en parallèle de ce qui arrive dans sa tête, et en même temps cette eau qui monte, qui menace, qui engloutit, et la mort comme ça qui rôde autour et qu'elle voit, ça s'est matérialisé, on en lira quelques extraits tout à l'heure. Alors moi j'ai eu l'impression que c'était très symbolique, parce que il y a ces digues qui vont céder, il y a toutes ces digues qui vont céder les unes après les autres pendant 5 jours, le souffle énorme comme ça de l'ouragan, et en même temps dans tous les sens du terme, elle aussi, elle est prisonnière de ses eaux, de l'eau et de son passé. On a l'impression qu'elle est coincée dans cette maison, une sorte d'enfermement par le cataclysme et par son passé.
Oui, c'est à la fois une métaphore, cet ouragan et cette inondation. Mais c'est vrai que dans la mesure où elle est physiquement prisonnière de cet espace, de ce petit espace qui est sa maisonnette, elle revoit, on pourrait dire, elle revoit le film de sa vie, mais tout devient très très prégnant, très très précis, très violent aussi, et elle s'adresse essentiellement, elle s'adresse pas directement au lecteur, elle s'adresse en fait à sa chienne, puisqu'elle vit avec quand même une chienne, et j'ai utilisé ce chien comme ça, comme un public, et aussi comme quelqu'un.
C'est vraiment le quatrième personnage du livre.
C'est le quatrième personnage du livre, et en plus, Ce qui m'amusait en tant que, enfin, en tant que romancier, que raconteur, c'était que pour avoir eu et avoir encore des animaux moi-même, je sais que lorsqu'on s'adresse à un animal, lorsqu'on dialogue avec un animal, on ne dit absolument pas les mêmes choses qu'on dirait à un être humain. Donc il y a eu une sorte de libération de la parole, et c'est vrai que les dicks cèdent, mais la parole de Zola aussi cède, quoi. C'est-à-dire que
elle n'est plus dans la retenue.
Non, elle n'est pas du tout. Elle n'est plus du tout dans la retenue. Elle a quelque chose de sauvage quand même chez elle, qui explique en partie pourquoi elle a été mise en retraite anticipée de l'école.
C'est... Ah oui, parce que c'est un personnage. Il faut dire aussi, c'est un personnage haut en couleur, c'est un numéro, une vraie personnalité. Voilà. Alors, son drame le plus grave et celui qui remonte le plus fort et le plus violemment, c'est le rejet de son fils qu'elle adorait, qui était homosexuel, et de son compagnon. Elle les avait rejetés. Alors elle revoit tout. Elle se dit qu'elle a dû commettre une erreur dans l'éducation pour que Caril, alors ce sont ses mots, s'entiche ainsi d'un homme blanc, ce grand escogriffe roux à peau laiteuse, comme l'amant qu'elle a eu, qui est le père de Caril. Donc elle y voit un signe quelque part entre cet amant de passage qui lui a fait un enfant et ce fils métis qui est amoureux d'un homme à la peau laiteuse et roux. Comme, voilà. Alors elle l'a élevé, vous disiez tout à l'heure qu'on l'avait mise un petit peu sur la touche comme ça, parce qu'elle était un petit peu originale, et elle a élevé son fils différemment des autres. Elle l'a élevé pour être le meilleur, et il l'a été. Alors elle avait une façon de l'éduquer qui était quand même particulière. Y a une phrase que je voudrais lire, parce que je voudrais que vous nous indiquiez un petit peu tout ce que ça peut vouloir dire et d'où ça vient. Alors elle disait à l'époque, quand elle élevait son fils, il n'y a pas de temps à perdre, on n'a le droit qu'à un tour et c'est fini. Il n'y a pas de seconde chance dans la vie, la seule seconde chance qu'on ait, c'est de répéter ses erreurs, et nous n'avons pas droit à l'erreur. Comment une mère peut être aussi radicale
et exigeante,
oui,
avec son enfant? C'est le fait des opprimés, ça. C'est le fait des gens qui sont en des minorités et des minorités opprimées. Cette idée qu'il faut faire mieux que les autres, ne pas se plaindre, travailler plus et voilà quoi. C'est il y a que comme ça qu'on s'en sort. C'est un des grands. Enfin, on me l'a dit. C'est pas que je m'auto-commande, mais on m'a dit ça. C'est un des thèmes quand même qui hante mes différents livres, cette idée de comment s'en sortir. Et c'est vrai que là encore une fois, la question est posée à travers ce personnage de Zola Jackson et celui de son fils notamment. Mais en fait, quand j'ai eu l'idée de ce personnage, la naissance du livre, c'est que j'ai vu un jour cette femme seule dans une maison qui serait menacée. Je ne savais pas encore que ce serait Katrina, que ce serait la Louisiane et tout. Et je me suis dit, j'aimerais, c'est un peu curieux comme idée, mais je voudrais mettre en scène, je voudrais décrire une mère endeuillée. C'est-à-dire que j'avais beaucoup exploré les sentiments filiaux, l'amour maternel, l'amour filial, mais j'avais beaucoup parlé aussi de la perte des parents, de la famille. Quand on est un enfant, j'avais pas regardé de l'autre côté, quoi, ce que c'était que pour un parent de perdre un enfant. Et à travers Zola, j'ai essayé de faire parler des mères que j'ai connues, puisque j'ai eu la malchance dans ma vie d'avoir plusieurs amis qui sont morts jeunes et dont après j'ai vu les parents, enfin j'ai connu les parents et j'ai vu la détresse énorme, la difficulté de retrouver goût à la vie, de s'en sortir. Justement, est-ce qu'on peut se sortir de la perte d'un enfant? C'est une vraie question. Et voilà, au départ de Zola, c'est quand même ça ce que je voulais. C'est comme ça que je voyais le personnage et je trouvais que l'idée que cette mère est comme tous les parents qui ont perdu un enfant et un sentiment de culpabilité tout à fait diffus, pas forcément raisonnable ni rationnel. Voilà, j'ai pensé à mettre en scène ce fils homosexuel et redoubler un peu la déception de sa mère par le fait que il vive avec un blanc, c'est-à-dire quelqu'un d'un autre milieu, enfin d'une autre couleur et surtout d'un autre milieu, puisque l'amant en question, Troy, appartient à une riche famille d'Atlanta. Et donc Zola, en tant que mère, comme je crois la plupart des parents n'est pas franchement ravis d'avoir un fils homosexuel. Faut dire la vérité quand même. C'est pas, on oublie de le dire parce que tout, aujourd'hui tout semble un peu entendu, mais rien n'est entendu. Et je crois que justement, j'en ai parlé il y a pas très longtemps avec un psy. Il me disait qu'effectivement, personne n'osait parler de la difficulté des parents qui ont des enfants homosexuels, qui doivent l'apprendre, qui doivent le gérer, qui doivent l'accepter. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça.
Vous l'avez très bien décrit. Alors, il y a deux passages que j'aimerais qu'on lise à ce propos-là. Alors, il y en a un que je vais lire et puis l'autre, vous le lirez, hein, puisqu'on va se partager ça. Alors, voilà ce qu'elle se disait, cette mère-là. Étais-je si laide, si noire à ses yeux même, que mon fils a fui toute femme et jusqu'à ma couleur? Étais-je si méchante, si mauvaise et injuste que l'amour des femmes l'a terrorisée? Étais-je si douce, au contraire, si tendre et complice avec lui, que l'amour des femmes lui a paru acquis et de la sorte inconsistant, sans enjeu, insipide? Suis-je un monstre? Dis, Lady, suis-je un monstre? Lady cligne des yeux, comme si elle comptait les canettes de Miller dans la chambre. Elle baisse les oreilles et sa queue hésitante n'emmène pas large. Suis-je un monstre, t'ai-je dit, Lady? Que Troy McIntosh était un grand héritier de la famille Chose, une famille progressiste, tu sais, une famille du dernier chic qui ne pense qu'au bien des familles comme la nôtre. Étais-je si laide de corps et d'esprit, si dégoûtante comme femme et comme lignée qu'il lui a fallu rejeter l'idée de se reproduire, lui l'héritier de mes tares? Lady tremblait à nouveau. Splash, fit la Miller dégoupillée. J'en bus une gorgée, puis deux, puis trois, et je sentis mon corps s'affaisser sur le côté. La Miller s'en fut mouillée un peu plus le matelas et les oreillers trempés. Les oreillers trempés. Voilà. Alors, l'autre.
Août 94, à nouveau. Août 94. C'était encore l'été, un 15 août, mon jour anniversaire. Cette année-là, j'avais combien déjà? 52, 53 ans? Les colibris aux fenêtres suçaient le nectar des fleurs exubérantes. Les colibris sont si petits et fébriles, ils ressemblent à cet oiseau malade qui bat des ailes dans ma poitrine, qui meurt d'être déjà mort, suçant mon sang mauvais. J'ignorais que je ne leur verrais jamais debout. La voix de Caril s'évanouissait au loin, happée par la brume de chaleur. On se reverra à Thanksgiving, n'est-ce pas? Je dois me sauver, môme, je dois me sauver. Encore, tu me fuis? C'est très bientôt, môme, juste 3 mois et je reviens. Enfin, je voulais te dire un truc qui commence à m'insupporter. Arrête de présenter Troy à tes voisins comme mon collègue. Je ne travaille pas avec lui, tu le sais très bien. Message reçu, j'y veillerai. J'aurai le temps d'y penser, de répéter d'ici 3 mois. Ça me sera entré dans le crâne, t'inquiète. Je t'embrasse, môme. C'est ça, disons comme ça. L'épaisse brume devint un mur de parpaing blanc, et sur ce mur aveuglant, 2 dates peintes en rouge, 1965-1995.
Voilà, toute l'émotion de cette femme et de la façon d'aller submerger aussi bien par les eaux que par elle-même et par ce remords et sa culpabilité. En fait, on a l'impression qu'elle se moque complètement de Katrina, son ouragan. Elle l'a déjà vécu. Elle a perdu ce fils unique qui était vraiment la lumière de sa vie. Et pour elle, Katrina, oui, mais on va le gérer.
Oui, enfin, là pour c'est ce qui la rapproche quand même du monde extérieur, puisque Zola est seule dans sa maison, mais pas tout à fait seule dans son quartier, puisque la plupart des gens de ces quartiers pauvres, n'ayant pas de voiture, n'ont pas pu fuir à temps la ville comme le recommandaient les autorités. Donc voilà, c'était des gens qui non seulement n'avaient pas de voiture, mais n'avaient pas d'autre lieu où aller. Ces familles de la Nouvelle-Orléans étaient de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de famille ailleurs dans d'autres États. Et c'est une donnée sociologique qui explique qu'il y a eu tant de victimes, qui explique que les gens soient restés chez eux. Donc elle est quand même dans l'ouragan, dans la mesure où elle entend ses voisins appeler au secours.
Et puis elle voit les morts qui passent,
etc. Où ils guettent les hélicoptères.
Et vous avez une manière de le décrire aussi. Vous sortez, vous êtes dans l'histoire et en même temps dehors, avec une grande lucidité et un regard quelque part un peu politique, puisque vous abordez des questions, vous soulevez des questions. On y voit tout. On voit justement ce qu'on disait tout à l'heure à propos de ces 2000 morts, qu'il y a eu beaucoup de Noirs qui sont morts parce que les quartiers blancs ont été sauvés en premier, qu'il y avait des accès, qu'il y avait des avions, des hélicoptères qui venaient les sauver, etc. Les Noirs ont été sauvés en dernier. Et puis l'armée n'était pas là. L'armée américaine était ailleurs. Donc il y avait très peu d'armées qui étaient présentes pour venir sauver ça. Il y a eu quand même un vrai scandale à ce niveau-là qui a été révélé.
Ouais, c'est-à-dire que c'est ce que dit le cinéaste Spike Lee. Ouais. Il dit ce n'est pas l'ouragan Katrina qui a fait tous ces morts et tous ces centaines de milliers de blessés, surtout ces personnes déplacées.
C'est la gestion.
C'est l'inondation, et l'inondation c'est à cause de la mauvaise gestion de l'administration Bush, c'est vrai, mais aussi quand même il faut le dire de l'État même de Louisiane où le maire était en rivalité avec la gouverneure. Enfin bon, c'est une sorte de dysfonctionnement là, comme il y en a en fait assez souvent aux États-Unis. On a tendance à idéaliser ce pays comme parce qu'ils sont les premiers au monde, quoi. Donc à penser qu'ils sont champions en tout, mais là, non, sur ces choses-là, ils sont pas champions. C'est la face cachée un peu.
Ouais. Qui vit au cauchemar.
Mmh. Oui, c'est vrai. Mais donc quand même Zola est bien en prise avec cet ouragan. Ce qui se passe, c'est que d'abord elle est incrédule. Bon, elle dit à sa fameuse chienne Lady, elle lui dit bon, ne t'inquiète pas, ne tremble pas. Mon mari Aaron était un super maçon, donc il a très très bien construit la maison. Voilà. Enfin, les fondations non, parce que ce sont plutôt des pilotis,
oui,
mais
des pilotis, oui.
tout va tenir. Et il faut dire aussi que pour expliquer que elle ni les gens du voisinage n'ont peut-être pas pris mesure du danger, c'est que l'année d'avant. En 2004, chose qu'on sait très peu, la mairie de la Nouvelle-Orléans avait organisé une sorte de fausse tempête, c'est-à-dire une évacuation, un exercice d'évacuation à l'échelle de la ville, et donc ça avait créé des embouteillages qui se sont reproduits en 2005 bien sûr, mais donc en fait c'est un peu, vous savez, comme quand à l'école on faisait, je sais pas si ça existe encore, on faisait sonner la sirène et tout, personne ne bougeait, enfin on savait très bien que c'était jusqu'au jour où c'est pas, voilà, donc c'est comme Pierre et le loup, le jour où il y a vraiment le feu, on ne bouge pas. Et il y a un peu quelque chose comme ça, là. C'est-à-dire que ils ont pensé que c'était à nouveau un exercice, que c'était une façon de sensibiliser la population. Sauf que non, vraiment, c'était un énorme ouragan qui arrivait.
Alors donc, dans les questions comme ça que vous soulevez, il y a la question de l'émancipation des Noirs, la complexité de la vie des Métis, quand même, qui est pas simple. Finalement, on a l'impression que vous faites un travail de journaliste, mais c'est bien plus que ça. Moi, je vous avais posé la question tout à l'heure, est-ce que vous y étiez ? Parce que c'est tellement plus que ça. Vous nous restituez tellement l'atmosphère, minute par minute, de cette vision et cet état d'apocalypse, qu'on a l'impression que vous y étiez.
Non, j'y étais pas. J'y étais pas. J'y suis allé en 2007, lorsque j'étais en Alabama pour écrire Alabama Song. Et à un moment, je suis descendu avec ma voiture vers Mobile, au sud donc de l'Alabama. Puis je suis passé en sud de la Louisiane et j'ai vu les dégâts, les ruines en fait qui n'avaient pas bougé parce que rien n'a été reconstruit. Et je crois qu'aujourd'hui encore rien n'est reconstruit pour cette simple raison que soit les gens sont morts, soit ils sont partis et ils n'ont pas assez d'argent pour revenir, pas assez d'argent pour reconstruire leur maison. Donc c'est des champs de ruines, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et il y a un aspect là encore une fois étonnant quand on pense à la puissance des États-Unis.
Alors tout à l'heure, je parlais aussi quand on était hors micro, d'un don que vous avez, que j'avais déjà remarqué dans vos précédents livres, et surtout avec le précédent, le prix Goncourt, de Zelda. Il y a un don, moi, qui m'épate. Et vous dites, quand vous rentrez dans un roman, je suis tout entier dans les romans de moi qui ne parlent pas de moi. Et ce don-là touche à ça, parce que vous vous glissez dans la peau et dans la pensée d'une femme, presque dans son âme. Et moi, je vous parlais tout à l'heure, il y a presque un phénomène de dépersonnalisation, tellement on oublie que c'est un homme, que c'est Gilles Leroy qui écrit et qui mène comme ça le fil de la vie de Zola. Non, Zola, c'est vous.
C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est vrai que d'abord, je vais dire que je ne sais pas comment je fais. C'est la vérité. Je ne sais pas comment ça marche, ce que je fais. Mais cette fois-ci, c'est vrai que j'ai recherché l'effacement maximum. Enfin, que j'ai vraiment essayé à la fois de donner à Zola tout le verbe dont je dispose, et vraiment d'être le moins, d'être, dans l'effacement et dans une sorte de don aussi, puisque pour pouvoir s'effacer, il faut donc donner cette voix, ces émotions, et c'est vrai que la grande la grande surprise des premières réactions que j'ai reçues à propos de mon livre, c'était des gens qui me disaient, des écrivains eux-mêmes, qui me disaient, c'est étonnant parce qu'on oublie qu'il y a quelqu'un derrière Zola, qu'il y a un écrivain derrière, qui donc nous parle, enfin qui fait parler cette femme. Et pour moi, c'est un très très beau compliment parce que je trouve que c'est, dans l'absolu, ce serait idéal qu'on oublie qu'il y a un écrivain derrière un texte.
Donc la dernière rencontre qu'on a eue tous les deux, c'était pour Zelda. Et à propos de Zelda, vous disiez que vous aviez vu une photo de Zelda et de Scott sur un paquebot, et vous dites, je suis rentrée, vous m'aviez dit à l'époque, je suis rentrée dans la photo, et c'est comme ça que j'ai pu donc aller aussi loin dans la pensée de Zelda et dans ses dérèglements, etc. Et donc, à propos de Zola, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a déclenché pour que vous arriviez à pénétrer aussi bien ce personnage? Pourquoi elle?
Comme je le disais tout à l'heure, le personnage, bon, il préexistait, c'est-à-dire que j'avais ce projet de un jour de parler d'une mère endeuillée, donc une mère qui a perdu son enfant. J'ai un projet depuis très très longtemps et qu'un jour j'aboutirai peut-être, qui est de réécrire Hécube, la reine de Troie qui a perdu tous ses enfants. Mais ça, c'est un projet de théâtre. Mais bon, je voulais, comme j'étais un peu hanté par ce thème, et l'idée, pourquoi tout à coup Zola s'est retrouvé, si je puis dire, pourquoi c'est devenu une femme noire et pourquoi c'était en Louisiane, c'est à nouveau à cause d'images. Comme nous tous, j'ai vu à l'époque des images de l'ouragan, de ces hommes et de ces femmes sur les toits des projects, là, des HLM qui avaient des pancartes SOS, qui essayaient désespérément d'attirer l'attention des hélicoptères venus les filmer plutôt que les sauver. Et il y avait donc les gens des HLM qui pouvaient monter sur les terrasses, sur les toits terrasses, et puis il y avait les gens dans les petites maisons individuelles qui eux périssaient noyés souvent dans leur grenier, étouffés dans le grenier, parce qu'au fur et à mesure que le montait, ils se réfugiaient par un instinct tout à fait animal, hein, enfin n'importe qui ferait ça, je crois, ils se réfugiaient le plus haut possible pour pas être noyés, quoi. Je sais pas, quand j'ai revu une image de Katrina, ça devait être en 2008, je crois, et je sais pas où j'ai revu ça, mais j'ai revu ça un jour, des séquences de l'ouragan et l'inondation, et c'est là où je me suis dit, voilà, cette femme, elle a commencé à exister dans cette maison là sous l'eau, et voilà.
Justement, pour illustrer cette façon que vous avez, alors il y a deux chapitres comme ça qui décrivent l'ouragan, et pour bien avoir les images, parce que c'est vrai que moi je voyais le film au fur et à mesure, vous le décrivez, on voit toutes ces images là. Je vais en lire une partie et vous une autre. L'eau dans la cuisine, je connaissais, j'avais grandi avec ça, mais à l'étage, non, je n'avais jamais vu de noyer non plus. Ce matin, un premier cadavre a traversé en diagonale la fenêtre de la chambre, glissant mollement et trop vite à la fois, couché sur le ventre, les bras en croix. Ses vêtements gonflés lui faisaient une bouée grotesque. Depuis le lit trempé, je peux voir à ma suite l'escalier englouti sous l'eau crasseuse et malodorante. À ma gauche, cadré dans la fenêtre, le ciel est bleu, pur, lavé, ressuyé, si pur, si bleu, un ciel innocent. Pour un peu, les larmes vont montrer aux yeux de son innocence. Plus loin dans la rue, on voit un petit corps accroché aux branches d'un chêne, l'un des derniers encore debout. Est-ce bien qu'il est encore vivant et s'agrippe de toutes ses forces? Ou est-ce qu'il est mort déjà, son corps seulement intercepté, retenu par l'arbre dans sa dérive? Les oiseaux se taisaient, il faut croire que tous avaient fui, les aigrettes légers, les colibris, les cardinaux rouges aussi, leur nid perdu, leur petit asphyxié, où donc trouver consolation? Les insectes avaient déserté tout autant, les abeilles, les phasmes, les sphinx têtes de mort, même les moustiques. Où étaient passés nos moustiques? Sans doute occupés dans les fossés, les arénas et les tentes de secours, à sucer le sang des agonisants.
Les corps flottent sur le ventre, tous, sans exception. Et tous ont les bras en croix, tels des outres chrétiennes. Parfois, sur le dos d'un corps, on discerne un rat embarqué. Un rat en croisière. Formidable. Une femme criait depuis un toit. Qui viendra nous sauver? Une voix d'homme un peu grasse lui répondait. Les gardes-côtes sont visibles à l'horizon. En un rien de temps, ils nous auront récupérés. Une autre voix d'homme, mais jeune, mais verte, presque acide. Les hélicoptères survolent le quartier, mais ne sont pas pour nous. Ils volent vers le centre-ville et aussi les belles résidences. L'eau bouillonne dans les égouts, si puissante qu'elle soulève les plaques et forme des geysers aux quatre coins du carrefour. Gerbe de merde, jet d'eau noire et putride pour fêter notre mort prochaine. Dans la gare routière, on voit les autobus quitter l'horaire de parking et dériver, faire des têtes à queue gracieux comme sur une patinoire, et ils finissent par s'emboutir entre eux, bien sûr. Tout comme si les fantômes de leurs conducteurs disparus avaient décidé de jouer aux autotamponneuses, facétieux fantômes, sacrés blagueurs. Hier encore, certains arrivaient à marcher. Ce matin, les plus téméraires voient le sol se dérober sous eux. Ils battent des bras dans l'eau, mais le mouvement les enfonce plus sûrement à chaque moulinet, et ils coulent, étonnés, leur dernier regard froncé étant pour la terreur de mourir maintenant, sans tambour ni trompette, sans fleurs ni couronne, sans Dieu aucun. Personne n'a appelé Dieu de tous ceux qui sombraient après avoir tant lutté. Dieu d'imposture, Dieu d'impuissance et Dieu d'usure, on dirait bien que ton règne finit ici.
Toujours beaucoup d'émotion quand on lit ça. J'avais envie de vous demander aussi au sujet de la forme, on parlait tout à l'heure de ce don de pénétrer comme ça un personnage, une femme. Est-ce que l'emploi de la première personne, le jeu, comme vous aviez fait pour Zelda, est-ce que c'est un parti pris ou c'est quelque chose qui s'est imposé à vous?
Pour Zelda, je m'étais posé la question. Là, je me suis vraiment plus posé la question. D'abord, j'avais déjà eu cette expérience-là, donc j'ai été un peu moins effrayé que la première fois. Je crois que l'intérêt de cette histoire, pour moi, c'était vraiment qu'elle soit racontée par cette femme. C'était qu'elle ne soit pas racontée par quelqu'un qui serait supérieur, comme un auteur, qui dominerait un peu les choses. Un autre filtre, un autre dominant. Parce qu'en fait, c'était un peu ça ma crainte. Lui donner la parole, que ce soit une parole libre. Et donc, le jeu, parce que c'était ce qui me semblait le plus authentique. Et en même temps, comme le livre aborde quand même des questions particulièrement douloureuses, avec la perte de l'enfant, mais aussi avec cette culpabilité qu'on a peut-être un peu pu sentir là de Zola, qui regrette qu'elle a parfois d'avoir peut-être fait enturer à son fils des choses qu'elle aurait pu lui épargner en étant moins jalouse, par exemple, en étant moins possessive. Je trouvais plus intéressant que ce soit la première personne, enfin que ces choses-là ne passent pas par le filtre non plus d'une morale, vous voyez, d'un auteur qui jugerait ou qui aurait des mots de juge là-dessus. Donc c'est elle qui parle, c'est elle qui dit des choses parfois cruelles, qui dit... voilà, elle est là tout entière avec ses énormes qualités et puis ses imperfections, son humanité donc.
Alors, on voit qu'elle est décidée, elle ne veut pas partir de la maison, elle ne veut surtout pas abandonner sa maison et tout son passé. Alors je me suis posé la question, au-delà de ce que vous nous expliquez, qu'est-ce qu'elle pouvait attendre réellement?
Mais je crois qu'elle qu'est-ce qu'elle attend? Elle veut surtout sauver cette maison, puisque c'est la dernière chose qui lui reste. C'est la maison aux souvenirs aussi. C'est ce qui renferme les souvenirs. Ça, sans raconter la fin, sans la déflorer, son grand chagrin, ce sera qu'avec le torrent. Le torrent, en emportant sa maison, a emporté les derniers souvenirs, les dernières photos, les dernières lettres de son fils Caril. Et c'est bien sûr ça qui compte. C'est pas les bouts de bois, les bouts de planches qui forment la maison. Donc, je sais plus du tout quelle a été votre question.
Ce qu'elle attendait, mais vous avez bien répondu.
Ce qu'elle attend, c'est ce qu'elle cherche. Elle cherche plutôt à sauver la maison, à sauver sa chienne de la noyade. Et voilà, lorsque les secours à un moment au bout du troisième et quatrième jour arrivent, elle ne serait pas contre finalement abandonner la maison si on voulait bien prendre aussi sa chienne avec elle. Et il se trouve que les secouristes lui disent que non, ils sont là pour secourir les êtres humains. Il y a peu de canaux, peu de place dans les canaux. On va certainement pas prendre des chiens à bord.
C'est très, très, très bien décrit. Alors à un moment, il y a un acteur, il y a même Hollywood qui se déplace. Le Sean, c'est Sean Penn.
C'est Sean Penn, oui.
Qui
est allé
quand vous le décrivez, petit, comme ça. Mais c'est vrai que, bon, oui, c'est bien. Je voyais tout à fait Sean Penn là-bas à essayer réellement. Je pense que c'était pas juste.
Ah non, mais il l'a fait sincèrement.
Il l'a fait très sincèrement. Ça lui ressemble bien. Et son dialogue avec elle, etc. Et il s'est rendu compte. Et quelque part qu'il fallait la laisser là, quoi. Et on pouvait pas la sauver. Le chien ne pouvait pas. On va pas raconter la fin. Donc, à un moment donné, elle a une phrase, quand elle pense quand même quelque part qu'il y a peut-être la mort qui l'attend et qu'elle va rejoindre son fils, et elle dit, je ne sais pas quand mon supplice trouvera sa fin. Parce que pour elle, elle a raté quand même cette histoire d'amour, cet amour unique que son fils vivait avec Troy, et elle dit d'ailleurs cette phrase, qui nous scotche comme ça, elle dit, je crois que c'était le plus grand amour qu'il m'ait été donné de voir, et j'ai craché dessus, cet amour, je l'ai condamné. Donc elle n'a pas compris.
Oui, ça fait partie de
ce... c'est pas qu'elle n'a pas compris, elle ne voulait pas comprendre, par rapport à la société, je pense, et à son propre échec. Peut-être.
Oui, mais la société... la société américaine du sud des États-Unis est une société très peu tolérante. Avec les différences, les minorités et la complexité d'un personnage comme Zola Jackson, c'est que elle est opprimée, mais comme souvent les opprimés, elle intègre le discours des oppresseurs. Et c'est toute à la fois la richesse de ce personnage, quoi, c'est qu'elle doit se battre contre ses démons, mais elle doit se battre aussi contre la langue du blanc dominant, le WASP qui très puritain. Là, on retrouve le thème effectivement du puritanisme qui était déjà dans Alabama Song, oui. mais c'est bien la même société et elle en est le produit et à un moment, il est question de redoublement minoritaire dans la thèse que Caril écrit, il est historien, oui. Il écrit une thèse d'histoire sur un personnage réel qui s'appelait Bayard Rustin. Et ce Bayard Rustin est quelqu'un qui est très injustement méconnu parce que c'était le bras droit de Martin Luther King et c'était on peut dire l'éminence grise celui qui a vraiment conçu et le discours et la logistique notamment de la marche sur Washington.
Et qui a été écarté injustement.
Et qui a été écarté, parce que homosexuel. Et alors.
Et les accusations un petit peu douteuses.
Voilà, alors bon, au départ, Martin Luther King l'a essayé de le défendre. Et puis quand la CIA et le FBI s'y sont mis et ont commencé à emprisonner Bayard Rustin pour un oui, pour un non. Ça suffisait pas. Ils ont finalement répandu cette rumeur que Bayard Rustin avait une liaison avec King, ce qui est une grande stupidité. Enfin bon, bref. Et là, King l'a lâché. Il pouvait plus. Et donc c'est quelqu'un qui a tout à fait été maltraité par l'histoire, ce Bayard Rustin. Et Caril s'identifie adolescent. Enfin, on comprend petit à petit qu'il s'est identifié adolescent à lui et qu'il écrit donc une thèse d'histoire sur cet homme, et il appelle sa thèse Bayard Rustin ou le redoublement minoritaire, c'est-à-dire la accumuler deux minorités, le fait d'être noir, le fait d'être homosexuel, la double peine, ouais. Et ça, c'est quelque chose de très dur aux États-Unis, mais c'est également très dur en France, par exemple, pour les jeunes gens issus de l'immigration qui sont homosexuels, filles ou garçons, ils vivent un enfer la plupart du temps.
Alors donc elle est comme ça déchirée. Elle a été déchirée quand même par l'ambivalence qui était en elle d'accepter son fils et tout ce que vous venez d'expliquer. Et donc elle réalise tout ça, qu'elle va peut-être mourir. Et à ce moment-là, les jours passent. Elle voit que l'eau monte et qu'elle va peut-être rejoindre ce fils. Et là, elle a ce que j'appelle la prière de Zola. Elle se parle complètement avec elle-même. Ce sont des mots qui... C'est au-delà des mots. Alors ça, par contre, je ne vais pas vous le laisser lire. C'est moi qui vais le lire. Merci. Parce que les femmes qui sont là vont peut-être comprendre ce que je veux dire. Voilà. Mon enfant, on dirait que c'est l'heure. L'heure de te rejoindre et je ne l'ai pas volé. Ça fait peur, ça fait un bien fou. Délivre-moi, mon fils. Délivre-moi du mal, délivre-moi de mes péchés, Libère-moi de la peur, pardonne la bêtise, pardonne la jalousie. Délivre-moi du poinçon de la haine, délivre-moi du goût amer des passions tristes. Libère-moi de mon amour pour toi, délivre-moi. Car je te rejoins, je veux être pure sinon belle, la chaste Zola qui rendait fou tous les gars du quartier, l'inaccessible Zola, la vierge, l'intouchée, la fière Zola qui se donna à 23 ans au premier blanc venu, mais pas n'importe lequel, non. Un militant anarchiste à cheveux roux, les yeux bleus, avec en travers du visage une balafre qui prenait de la tempe droite jusque sous l'oreille gauche. Je ne te l'ai jamais dit que ton père était roux. Je ne crois pas l'avoir précisé. Quand je t'ai vu aimer cet homme roux, quand j'ai vu qu'il t'aimait toi, j'ai ressenti un indicible et cuisant chagrin, comme si tu venais redoubler mon opprobre. J'ai dit oui à ton père parce qu'il était beau, comme les voyous blancs sont beaux, enjôleurs et doux. Voilà pourquoi je voulais le lire à toutes les femmes qui sont là, parce que j'ai été tellement bouleversée en lisant cette manière de correspondre, d'être avec ce fils mort et d'y être bientôt, qu'aucune femme ne peut rester indifférente, les hommes aussi, hein, mais bon, les femmes quand même. Voilà, en tant que mère. Voilà, donc c'était cet autoportrait de Zola Jackson qui est tellement magnifique, qui supporte bien la comparaison avec sa sœur en Zelda. Cette femme attachante avec tout son caractère, ses fêlures, sa nervosité, sa façon de s'enivrer doucement, parce que la bière, elle aime bien de temps en temps, comme ça, s'enivrer doucement. Elle n'a pas de technique. Elle est comme ça, elle boit un peu de bière et c'est comme si elle s'allait bercer, comme si elle diluait ses angoisses avec la bière et sa joie de vivre finalement jusqu'au bout. Merci encore pour ce don subtil que vous avez su capter comme ça, l'âme des femmes, surtout celle dont le prénom commence par un Z. Je ne sais pas si vous allez en prendre l'habitude, mais en tout cas ça vous réussit bien. Alors moi j'ai envie de finir en vous disant, comme vous disiez à la fin de Zelda, vous lui disiez tout doucement, et moi en fermant ce livre, j'ai envie de vous dire la même chose, vous lui disiez « Adieu Zelda, ce fut un honneur ». Alors moi aujourd'hui, je vous dis au nom de tous, « Adieu Zola Jackson, ce fut un honneur pour vous aussi, Gilles Leroy, on est très content pour ce que vous nous livrez, et un grand honneur d'avoir rencontré Zola ». Merci, c'était Zola Jackson aux éditions Mercure de France.
Merci.